J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce qu'il y a des conséquences à subir pour ceux qui ne marchent pas selon Dieu? Demeurez à l'écoute, nous aurons la réponse aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ». Bonjour, ici Caro. Dans le monde où l'on vit aujourd'hui, je crois que vous allez trouver que les questions suivantes sont vraiment d'actualité. Les voici. Est-il possible de tricher, de mentir et d'accomplir quand même l'œuvre de Dieu? Est-ce que la ruse que Jacob a utilisée pour obtenir la bénédiction de son père était justifiable? Est-ce que Jacob a dû porter les conséquences de sa ruse? Est-il acceptable aux yeux de Dieu que l'on fasse ce qu'on appelle des mensonges pieux? Est-ce qu'on a des conséquences à subir quand on ne marche pas selon Dieu? Est-ce que Dieu approuve que des chrétiens épousent des incroyants? La Bible a la réponse à toutes ces questions. C'est pourquoi le pasteur Régent Joly est prêt à nous les donner. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous aide à bien saisir cet enseignement. Prions. Mon Dieu, on est content de venir dans ta présence aujourd'hui pour recevoir ton enseignement. Parle-nous, dispose nos cœurs, qu'on puisse bien comprendre ton message aujourd'hui. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis, je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 27 du livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons étudier ce chapitre. Ce chapitre nous relate la ruse que Rebecca et Jacob ont utilisée afin que Jacob reçoive la bénédiction qu'Isaac voulait donner à Ésaü. Jacob désirait fortement cette bénédiction de son père. Il savait que Dieu avait promis à sa mère que l'aîné servirait le plus jeune. Donc, la bénédiction lui appartenait déjà. Personne ne semble avoir cru Dieu, ni Rebecca, ni Jacob, et ni même Isaac. En effet, Isaac n'aurait pas choisi de donner la bénédiction à Ésaü s'il avait cru que Dieu l'accordait à Jacob. Il a agi en fonction de ses désirs plutôt que par la parole révélée de Dieu. Par contre, la ruse employée par Jacob pour obtenir la bénédiction ne peut pas être justifiée d'aucune manière. Il a triché et menti pour l'obtenir. Sa conduite est ignoble et nous ne pouvons pas l'approuver, pas plus que nous pouvions approuver la conduite d'Abraham et de Sarah lors de la naissance d'Ismaël. Dieu n'avait pas besoin que Jacob l'aide en trichant et en mentant, donc il fera porter à Jacob les conséquences de ses actions. Il fera goûter à Jacob sa propre médecine. À la dernière émission, nous avons terminé le chapitre 26 en notant qu'Ésaü avait 40 ans. Il a pris pour épouse des Éthiennes, ce qui fut un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Ils se rendent compte que s'ils ne veulent pas que Jacob épouse une Cananéenne ou une Éthienne, il doit s'en choisir une de la famille d'Abraham, tout comme Isaac l'a fait. Débutons notre lecture, chers amis. Chapitre 27 du livre de la Genèse, versets 1 à 4. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils, » il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Isaac était un homme exceptionnel et n'était pas un faible malgré ce que pensent certains érudits. Abimélec et les Philistins ont fait une alliance avec Isaac, car ils le craignaient. C'était un homme exceptionnel de son époque. Cependant, nous voyons ici un de ses points faibles. Ésaü était son fils préféré. Jacob était le préféré de Rebecca. Ésaü était l'athlète, le chasseur, celui qui rapportait du gibier à son père. Isaac aimait Ésaü, il était fier de lui. Maintenant il est âgé, il désire bénir Ésaü. Il sait que Dieu a déclaré que l'aîné servirait le plus jeune, mais il n'en tient pas compte, car il aime et préfère son fils Ésaü. Il lui dit, « Fais-moi un mets, comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Nous avons un aperçu de ce qui se passe à l'intérieur de cette famille. Avez-vous remarqué les conflits qu'il y a dans les familles depuis que nous sommes dans cette section de la Genèse? Il y eut des conflits dans la famille d'Abraham à cause d'Agar. Maintenant, il y a un conflit dans la famille d'Isaac à cause des jumeaux. Poursuivons notre lecture, les versets 5 à 8. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. » Donc, la ruse fut conçue par Rebecca. C'est du mensonge et de la tricherie. Cette tromperie ne peut pas être approuvée en aucun cas. Si Dieu en parle dans sa parole, c'est que l'incident fait partie de l'histoire. Ce n'est pas parce qu'il l'approuve. En fait, il condamne cette action. Nous verrons les conséquences de cette tromperie plus loin. Poursuivons, versets 9 à 11. « Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. » Non seulement Ésaü était-il du type athlétique, mais il était aussi un homme très poilu. Poursuivons, versets 12 à 17. « Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poils. Elle y plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Mes amis, je ne peux pas m'empêcher de faire un commentaire. Rebecca mit la peau des chevreaux sur le cou et les mains de Jacob afin de tromper son mari Isaac. Non seulement pouvait-il toucher la peau, mais il devait aussi la sentir. Ésaü ne devait pas utiliser un déodorant bien efficace. Ça me rappelle l'histoire de deux ouvriers travaillant dans un coin étroit. L'un dit à l'autre, « Le déodorant de l'un de nous n'est plus efficace. » L'autre de répondre, « Ça doit être le tien, car je n'en utilise pas. » Je ne pense pas qu'Ésaü utilisait du déodorant. Il ne devait pas prendre sa douche souvent. Non seulement était-il poilu, mais il dégageait l'odeur des troupeaux auprès desquels il travaillait. Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer cela en lisant ce passage. Versets 18 à 20. Il vint vers son père et dit, « Mon père. » Et Isaac dit, « Me voici. « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Jacob fait un mensonge pieux, typique de ceux que, malheureusement, l'on retrouve trop souvent dans nos milieux évangéliques. Les gens parlent du Seigneur qui les guide. Il arrive que le Seigneur leur demande de faire des choses très étranges et même bizarres. Il arrive que des gens qui se disent chrétiens fassent des choses que si elles étaient faites par un membre de la mafia, celui-ci serait bien arrêté et conduit en prison. Ils affirment qu'ils ont prié à ce sujet et qu'ils ont agi conformément à la volonté de Dieu. Ici, Jacob commet une fraude sous un couvert de piété. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Le Seigneur n'avait rien à voir avec cette action, mes amis. Verset 21. Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Isaac s'est douté de quelque chose, mais Rebecca connaissait bien son mari, donc elle a prévu le coup. Versets 22 à 29. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ? » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc, et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, et dit, « Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Isaac transmet la bénédiction qu'il a déjà reçue lui-même. Cependant, elle appartenait déjà à Jacob, puisque Dieu avait affirmé qu'il l'aurait. Il avait déjà béni Jacob. Dieu n'approuve pas du tout ce qui se passe ici. Poursuivons notre lecture. Versets 30 à 33. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier ? Il me l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni ?» Quelqu'un peut se demander si du gibier a le même goût qu'une chèvre ou un mouton. La réponse est oui. J. Vernon McGee, le prédicateur américain, dont nous utilisons le matériel pour nos émissions, raconte qu'il avait tué un chevreuil lors d'une partie de chasse. Lui et son ami avaient invité la congrégation à un repas au cours duquel fut servi l'animal. Comme il n'y avait pas suffisamment de viande pour tous, ils ont aussi fait cuire du mouton. Personne n'a vu la différence. Isaac découvre qu'il a été trompé. Versets 34 à 41. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père !» Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la grâce de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement çà et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Autrement dit, mon père est âgé. Il ne vivra plus bien longtemps. Aussitôt qu'il décédera, je tuerai Jacob. Je me débarrasserai de lui. C'est ce qu'Ésaü médite dans son cœur. Versets 42 et 43. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi. Fuis chez Laban, mon frère, à Charan. » Rebecca prend de nouveau les choses en main et dit à Jacob qu'il doit s'exiler. Elle va l'envoyer au loin. Elle a payé pour son péché, car elle n'a jamais revu son fils vivant. Elle l'a envoyé là pour un certain temps, mais elle est décédée avant son retour. Rappelez-vous, Jacob est son préféré, alors qu'Ésaü est le préféré d'Isaac. Elle veut envoyer Jacob chez son frère Laban. Jacob ira. Mais c'est là que Dieu lui enseignera une leçon en lui faisant goûter sa propre médecine. Laban sera celui que Dieu utilisera pour lui enseigner sa leçon. Jacob se pensait rusé, mais il n'allait pas à la cheville de son oncle Laban. Dans son désespoir, Jacob criera à l'Éternel. Notez ce que dit Rebecca, verset 44. « Et reste auprès de lui quelque temps. » Ce quelque temps se prolongea 20 ans. Et Rebecca mourut pendant ce temps-là. Elle n'a jamais revu son fils préféré. Verset 45. « Jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Ésaü ne devait pas avoir une trop bonne opinion de sa mère après cet incident. Maintenant, lisons, verset 46. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Ésaü avait épousé des Éthiennes, des filles d'une culture sans crainte de Dieu. Ces femmes attristaient déjà le cœur d'Isaac et de Rebecca. Elle craint que Jacob en épouse une aussi s'il demeure dans le pays. Elle utilise cela comme excuse pour éloigner Jacob d'Ésaü, qui veut tuer son frère. Ceci nous amène au chapitre 28. Isaac et Rebecca se mettent d'accord afin que Jacob se rende chez Laban, là d'où vient Rebecca. L'intendant d'Abraham était allé chercher Rebecca à Charan, donc une raison pour y envoyer Jacob et d'obtenir une épouse. Donc, il ne va pas là seulement pour fuir Ésaü. Il est probable que cela se serait produit. Mais Rebecca est décédée avant le retour de Jacob. Jacob est cependant revenu à temps pour les funérailles de son père. Maintenant, allons au verset premier du chapitre 28 du livre de la Genèse. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donne cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Partout dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu ne veut pas que les siens épousent des païens qui ne craignent pas Dieu. C'est pourquoi je pense que Genèse chapitre 6 réfère à la lignée de Seth, choisi par Dieu, qui accepte de marier des gens de la lignée de Caïn, la lignée rejetée par Dieu. C'est cela qui a provoqué le jugement par le déluge et qui réduisit la population mondiale à 8 personnes. Les mariages de croyants et d'incroyants éloignent toujours les chrétiens de Dieu. Je donne cet avertissement, car nous vivons dans une période où les jeunes ne suivent pas toujours les conseils des parents, encore moins celles d'un prédicateur de beaucoup leur aîné. Nous, les pasteurs, nous voyons souvent de jeunes chrétiens ou de jeunes chrétiennes désireux d'épouser un incroyant. Ils pensent qu'ils vont le gagner à Christ. Si vous ne gagnez pas votre futur conjoint à Christ avant de l'épouser, il est peu probable que vous le fassiez après le mariage. Dieu interdit aux siens d'épouser des incroyants. Cela entraîne toujours de la souffrance, et je voudrais vous l'éviter. Nous en connaissons des centaines de cas. Ces mariages sont rarement heureux, car Dieu est mis de côté. On ne peut refuser le plan de Dieu sans en subir des conséquences. Regardez Achab et Jézabel. Le Nouveau Testament commande clairement aux enfants de Dieu de ne pas se mettre sous un joug étranger. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Épouser un incroyant ou une incroyante est une façon de se mettre sous un joug étranger. Ce n'est pas simplement une activité religieuse et œcuménique. Si Jacob demeure dans le pays, cela risque d'arriver. Et voilà pourquoi que sa mère, Rebecca, ainsi que son père, Isaac, prennent cette position d'un commun accord. Maintenant, Isaac envoie Jacob chez Laban, le frère de Rebecca. Poursuivons notre lecture. Verset 2 de Genèse 28. Lève-toi. « Va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. » Isaac envoie Jacob chez Laban, et croyez-moi, Jacob trouvera chaussure à ses pieds. Jacob n'est pas tiré d'affaire, mais il l'ignore encore. Il ne tardera pas à le découvrir, et pour le faire, nous devrons patienter jusqu'à la prochaine émission. Préparez-vous en lisant Genèse, chapitre 28.
Merci, Régent. Il est clair, si on regarde l'enseignement d'aujourd'hui, que Dieu interdit aux siens d'épouser des incroyants. Depuis le nombre d'années que je suis chrétienne, j'ai eu le temps de voir quelques enfants de Dieu qui ont quand même marié des incroyants. Et ce que Régent nous a enseigné aujourd'hui à ce sujet, ça s'est accompli exactement comme il l'a dit. Et ça se produit surtout chez des jeunes chrétiens. Ils se pensent assez forts pour amener leur conjoint ou leur conjointe à Christ par leurs propres moyens. Et ça a des conséquences désastreuses la plupart du temps. Ou bien le chrétien devient malheureux parce que son conjoint, sa conjointe, ne veut rien savoir de la vie chrétienne. Ou bien, ce qui est encore pire, c'est que le chrétien abandonne lui-même les voies de Dieu. Ça, c'est vraiment triste et on le voit assez fréquemment aujourd'hui. Alors, il ne faut vraiment pas se croire fort. L'apôtre Paul dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il dit aussi que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. quand on se croit fort, on oublie de s'appuyer sur le Seigneur. On oublie de chercher dans sa parole les moyens de rester debout. Alors, comme Régent nous l'a enseigné aujourd'hui, on ne peut pas refuser le plan de Dieu sans en subir des conséquences graves. Dieu résiste à ceux qui lui désobéissent. Il se prive de sa bénédiction. Dieu aime un cœur obéissant. Et je pense au meilleur exemple d'obéissance, c'est Jésus lui-même. Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, Dieu lui-même. Et puis, il est venu au monde dans un corps de petit bébé, un corps d'humiliation comme le nôtre. Et il a été obéissant. Il a été obéissant à ses parents. Il a été obéissant à toutes choses. Il a été obéissant envers tous les commandements de Dieu. Ses propres commandements, quoi. On pense au commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et puis, il a honoré son père et sa mère. Il était obéissant envers eux. Il était obéissant envers son Père du ciel, alors qu'il est allé à Gethsémané, puis qu'il a dit « Oui, je veux faire ta volonté, Père, et non la mienne ». Il a fait sa volonté, est allé mourir sur la croix pour nous. Grâce à son amour, à son obéissance, il est allé sur la croix, puis il a payé la dette de mes péchés. Ma dette à moi qui a été désobéissante envers tous ses commandements. Il s'est fait pécheur pour moi, afin de me racheter, moi qui avais désobéi à tous ses commandements, moi qui avais désobéi à sa parole. Et il a payé ma dette. Il a payé ta dette. Est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu vois des désobéissances dans ta vie? Des choses que tu as faites dans ta vie qui étaient contre le plan de Dieu pour toi? Ou peut-être juste ta conscience t'accusait parce que tu ne connaissais pas encore la parole de Dieu? Mais Dieu veut te pardonner tout ça. Il y a un geste d'obéissance que tu dois faire. Et c'est un geste qui va te bénéficier toi-même. C'est d'accepter Jésus pour ton sauveur. De te reconnaître un pécheur coupable. De reconnaître que tu ne peux pas entrer dans le royaume sans passer par Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Il a dit que personne vient au Père s'il ne passe pas par lui. Alors si tu veux venir au Père, si tu veux avoir la vie éternelle, eh bien obéis au Seigneur. Obéis et entends sa voix qui dit « Viens à moi, je veux te donner la vie éternelle. »
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offert à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformée par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet, www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Et ici, Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.